aimant au jeu ne sait plus comment. Faudrait qu'on le dise avec les yeux. Moi je peux plus voir quand c'est pour deux. Pas pris d'amour.
Mercredi sur deux à 19h sur Radio G. Il est 19h sur Radio G. Et on se retrouve pour je vais arrêter d'essayer de dire le nombre d'émissions qu'on a eu parce qu'en fait j'en ai aucune idée, mais
il dit des noms d'émissions au pif.
Voilà, on est à 150e, non peut-être pas quand même, mais c'est pas la question aujourd'hui. J'allais dire émission un peu spéciale, c'est complètement faux, mais émission déjà.
Elles sont
bien.
Toujours spéciales nos émissions, ouais,
parce qu'on est là,
on est des enfants spéciaux,
voilà. Mais du coup Aujourd'hui, on va parler de quoi ? Aujourd'hui, on va avoir un Game Pop avec Claire, pour une fois. Puis ensuite, on va parler dans Qu'est-ce qu'on lit avec Mel ? Et après, on va faire lancer l'idée avec moi. Bon, vous voyez
que... Qu'est-ce qui se passe ? On a tout changé.
À part pour le JDR.
Non,
jamais. Je crois que ce sera toujours moi, malheureusement. Mais, voilà. J'espère que vous allez bien. Mel, Claire, est-ce que vous allez bien ?
Bah écoute, on est sur une fin de maladie pour moi, encore. Est-ce que c'est étonnant?
Le système immunitaire d'un enfant au Moyen-Âge.
Oui, c'est
ça.
Et toi, Claire, comment ça va?
Eh bien, écoute, en pleine finition de projet crochet, donc évidemment, envie de mourir.
Ouais, c'est sympathique.
Toujours, c'est important.
Pour moi, ça va, écoutez. J'ai
on n'a pas eu le temps de lui demander.
Je
vais bien.
Moi, je vais bien. De toute façon, tout le monde s'en fout, j'ai bien compris. Mais c'est pas la question. On va tout de suite se retrouver avec, du coup, comme on dit, Game Pop avec Claire. Claire qui va nous parler d'un jeu. De quoi tu vas nous parler, Claire ?
Aujourd'hui, je vais vous parler de mon crush ultime, mon Hear Me Out ultime finalement. Je vais vous parler de Professeur Layton. Parce que Professeur Layton, c'est un jeu qui, pour moi, restera toujours dans l'air du temps et toujours dans l'actualité. Parce qu'en fait, il s'est créé son propre univers tout seul, ce petit Professeur Layton, en tout cas pour moi. Mais d'abord, revenons aux bases. Vous déjà, Professeur Layton, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Des énigmes assez simples.
Moi, je vais dire l'inverse. Des énigmes ultra compliquées. Et voilà. Et j'ai genre essayé une fois de décrypter une énigme du jeu. J'ai jamais réussi. J'ai plus jamais joué à un seul jeu, Professeur Layton.
Je crois qu'on a touché un trauma là en fait.
Ah ouais, non,
exactement.
Mais...
C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une séance psy pour Mel.
J'ai pas réussi l'énigme.
Il y avait combien de parts de pizza pour la petite fille à droite? Alors, Professeur Layton. Professeur Layton, c'est un jeu qui est sorti par Level 5. Un jeu qui est centré sur notre cher Herschel Layton, professeur en archéologie et grand amateur d'énigmes. C'est un jeu qui est sorti en 2007 pour le premier, donc il y a maintenant 19 ans, tout simplement. Tout simplement. C'est un jeu qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est un jeu qui est tout public. Et comme on l'a entendu avec Mélégière, c'est ça un peu l'idée. C'est que Professeur Layton, ça peut toucher à tout le monde. Ce sera pas nécessairement facile pour tout le monde. Par contre, c'est accessible. C'est-à-dire qu'on peut quand même facilement essayer de commencer. Sachant que, rassurez-vous, il y a quand même aussi des indices disponibles dans le jeu. On n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses. D'ailleurs, il y a un site que moi j'utilise quand je joue à Professeur Layton qui donne tous les solus à toutes les énigmes.
Bah, c'est super solus.
Oui. Et j'adore ceci, très honnêtement.
Il est tellement bien.
En vrai, très pratique parce que, pour le coup, si vous réussissez pas certaines énigmes, vous êtes bloqué dans le jeu. Il y a un policier qui va être dans une pièce hyper importante pour l'histoire qui va vous dire, bah non, mais je vois que vous n'avez pas résolu 30 énigmes. Bah, du coup, vous passez pas à la zone. Et du coup, vous retrouvez comme un con à aller récupérer d'autres énigmes que vous avez loupées dans le jeu ou ratées, tout simplement. Mais en tout cas, Professeur Layton, c'est vraiment un jeu qui, pour moi, est toute mon enfance, je dois dire. J'ai découvert Professeur Layton parce que mon père avait une sacro-sainte R4 qu'il m'avait offerte. Et il s'était amusé, mon père, à télécharger plein de jeux random. Donc j'avais Sims Animaux, tout autant que j'avais Professeur Layton, tout autant que j'avais genre des jeux Lego sur DS. Donc il faut savoir qu'effectivement, Professeur Layton est arrivé par hasard. Ça aurait pu être n'importe quel jeu, j'aurais pu être fan de... Je sais pas de quel autre jeu j'aurais pu être fan, mais en tout cas, je suis tombée dans Professeur Layton très vite, mais surtout dans Super Solus très très rapidement. Au début, je dois admettre, parce que je devais pas être très très vieille quand j'ai commencé le jeu. Étant donné que j'ai eu ma DS, il était en 2018. Donc effectivement, j'étais très jeune. Et Super Solus, c'était déjà mon pilier dans ma vie. Et pour la petite chronologie, donc Professeur Layton, c'est plusieurs jeux. Le premier, c'est L'étrange village, qui est sorti en 2017. En même temps, a été produit la suite directement. C'était un gros succès déjà à la base, mais la suite a été produite directement en même temps, ce qui fait que le style graphique est vraiment identique sur un petit style un petit peu cartoon, un petit peu rond, avec des personnages hyper attachants et hyper caractéristiques. C'est un peu, c'est un peu le Zelda de ma vie, quoi. C'est ma saga à moi, finalement. Donc, L'étrange village est sorti en 2007, tout comme La boîte de Pandore. Moi, il faut savoir que c'est vraiment mon premier Professeur Layton, La boîte de Pandore. Et c'est un titre que j'affectionne par-dessus tout, parce que, pour le coup, La boîte de Pandore, ça parle notamment du train. Je sais plus le nom du train dedans, mais c'est complètement une réplique de l'Orient Express. Avec ses wagons hyper luxueux, ses styles un petit peu chic et tout ça. Tout et le tout en dessin et en point and click, ce qui fait que moi, toute petite, n'étais un petit peu moins embêtée. Le gameplay était pas trop trop dur en termes d'ergonomie. Et je crois que c'est ça qui marchait bien pour moi. Et en 2008, l'année d'après, est sorti Le Destin Perdu. Ça, c'est vraiment la trilogie originelle où on retrouve du coup Luc et Professeur Layton. Donc Luc qui est son petit assistant trop pipou. Trop mignon, deuxième crush finalement. Celui-là avait un peu plus mon âge, donc c'était peut-être un peu mieux finalement. Merci maman. Et ces trois jeux, donc, sont les seuls qui sont sortis véritablement sur la DS, donc DS Lite, DS Tank, ce que vous voulez. Après ça, en 2009, donc vraiment juste l'année d'après, est sorti pour la 3DS L'Appel du Spectre. C'était pas un énorme changement par rapport aux trois derniers jeux. Par contre, comme il y avait la 3D, toutes les animations ont été retravaillées parce qu'avant c'était vraiment du dessin, des dessins assez droits où il y avait vraiment très très peu de perspective. Il fallait juste passer d'un tableau à l'autre qui était sur l'écran du haut. Même pas l'écran du bas qui était plus pour les petits outils. Et ouais, avec la 3DS, on a pu voir les petites animations, genre Professeur Layton qui pointe du doigt quand vous trouvez l'énigme ou qui cache son visage quand vous vous trompez, ce qui est hyper humiliant en vrai. Ça, c'était vraiment une vraie révolution, ouais, qui était plutôt sympa. Et effectivement, bah, comme je pense que la plupart des gens le savent, entre la DS simple et la 3DS, il y a eu une grosse évolution graphique parce que la 3D, mais aussi une grosse évolution en puissance. Ce qui fait que les jeux ont commencé à avoir un petit peu plus de mini-jeux, un peu plus de rapidité, de possibilités. Ça, c'était une vraie révolution, mais ça restait quand même dans le même fonctionnement. En 2009, on a aussi eu un film Professeur Layton. Je ne sais même pas si vous étiez au courant.
Il y a eu un film Professeur Layton. Mais oui, il y a eu un film d'animation.
Tout à fait.
J'étais pas au courant, mais
Le film est comme toi. Ça s'appelle La Diva Éternelle. Évidemment, il était aussi un petit peu plus en 3D, mais en tout cas, ça a permis effectivement à la franchise d'évoluer légèrement. Pendant ces années-là, on a toujours un très très gros succès de Professeur Layton, parce qu'en fait, on en reviendra tout à l'heure là-dessus, mais c'est une grosse époque où il y avait énormément de jeux qui étaient vendus sur DS de tout type, comme Passe mon code, à recettes de cuisine, et il y en avait beaucoup qui étaient sur les tests cérébraux, le sudoku, ce genre de choses. Donc effectivement, on continue d'avoir des sorties de Professeur Layton, mais on a déjà des ventes qui baissent un petit peu. En 2011 sort Le Masque des Miracles, puis suivi en 2012 par Layton Brothers Mystery Room, qui est sorti, il faut le savoir, sur iOS et Android à l'époque. C'était un jeu assez similaire au principe des autres jeux, par contre celui-là était sur téléphone. Il avait initialement été prévu en 2010, mais annulé et ressorti en 2012, mais parce qu'en fait à la base il devait pas être du tout sur téléphone, mais il devait être sur DS. Mais DS, vraiment genre 3DS, et le projet a été annulé, et ils se sont plutôt tournés vers les téléphones. Ce qui est assez intéressant, parce que si on en réfléchit 5 minutes, c'est aussi l'époque où les smartphones sont arrivés. Et en fait, c'est un peu ça aussi qui a bousculé l'ordre établi, c'est-à-dire qu'avant on achetait quand même des petits jeux DS ou ce genre de choses, même les adultes, parce qu'en fait nos téléphones n'étaient pas capables de pouvoir nous proposer des recettes de cuisine ou de faire des sudoku. Et soudainement, on peut tout à fait télécharger Angry Bird et jouer à un petit jeu simple. On n'est pas obligé de se taper la DS qui fait cling quand on s'ouvre et on l'a transporté partout en plus de son téléphone. Ça fait aussi un peu plus adulte de loin, donc c'était pas trop mal. Bon, à la même période, ils se sont quand même un petit peu chauffés et on a eu une super collaboration entre Professeur Layton et Phoenix Wright Ace Attorney, ce qui était incroyable, parce qu'Ace Attorney, il faut savoir que c'est aussi un jeu qui est un petit peu centré sur c'est techniquement centré sur un avocat qui doit justement défendre des accusés. C'est vraiment la défense, et du coup tu dois vraiment faire des interrogatoires et tout ça, et faire craquer les témoins pour genre défendre ton client. Et là on est vraiment sur un jeu où c'est genre littéral Professeur Layton et Ace Attorney, et c'était un gros truc parce que c'était des grosses sagas à l'époque toutes les deux. Donc gros crossover, et ce qui tombe bien parce que c'est quasiment la fin d'une grosse période pour Professeur Layton, puisqu'on a eu ensuite L'Héritage des Atlantes qui a floppé monumentalement. C'est un des jeux qui a été le moins acheté de la franchise. Pour le coup, j'ai joué celui-là sur émulateur. Oui, je sais que c'est illégal. Oh là là.
C'est pas illégal, disons simplement, c'est pas très bien.
C'est un jeu aussi qui a un peu la même structure. Toujours des énigmes, toujours une petite histoire aussi en fond, parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais j'en parlerai après. C'est la raison pour laquelle moi, j'aime autant Professeur Layton. Et ça a pas tant marché que ça, mais c'était un peu le dernier. Ensuite, on n'a pas eu de nouvelles pendant quelques années, jusqu'à ce qu'un jour, on nous appelle pour un grand retour. Mais attention, pas centré sur Professeur Layton, mais sur sa fille, Kate. Et on a eu donc L'Aventure Layton, Catriel et la Conspiration des Millionnaires, qui est sorti initialement sur 3DS, puis qui a eu en 2017. Puis ensuite, on a eu un portage en 2019 sur Switch. Moi, ce jeu-là, c'est le troisième opus auquel j'ai joué. J'ai pas joué à tous les Professeur Layton, mais j'ai joué à celui-là. Celui-là, c'est une catastrophe. Il faut le dire, il a été beaucoup décrié. Et moi, j'avoue que je l'ai personnellement détesté.
Ah ouais.
Parce que c'est exactement ce que disais hier. Le jeu est trop simple. Les énigmes sont hyper simplistes. Et ce qui fait la force de Professeur Layton, c'est qu'il y a toute une histoire et qu'on suit, et qu'en fait, on a envie de se taper ces énigmes horribles. Parce que pour sortir de la zone et avancer dans l'histoire, il faut bien le faire. Là, Catriel, c'est pas vraiment le cas. C'est des micro-histoires, parce que c'est juste Catriel qui ouvre son agence de détective dans Londres et qui, du coup, résout des mystères. Mais en fait, du coup, si vous aimez pas le mystère 1, vous pouvez faire le mystère 2. Et du coup, ça a beaucoup moins d'impact. On se retrouve avec Kate, qui a comme acolyte, non pas Luke, parce que Luke est techniquement très très vieux, vu que c'est la fille de Professeur Layton, Kate, mais un chien qui s'appelle Sherl, pour Sherlock Holmes, qui parle. Et elle est la seule à pouvoir parler à ce chien, ce qui est... Non, les autres l'entendent parler aussi au chien. Et écoutez, j'avoue que je n'ai pas beaucoup aimé ce jeu. Il a un petit truc en plus. Toujours la même patte graphique, ceci dit, c'est toujours Level 5 qui s'est occupé des graphismes, mais c'est vraiment des très beaux jeux. Les Professeurs Layton, honnêtement, ils vieillissent, mais comme du petit lait. C'est vraiment incroyable. Ils sont toujours extrêmement doux, extrêmement beaux, parce qu'ils ont leur patte graphique, comme Wind Waker de Zelda. C'est un peu ce genre de jeu, un peu doudou. En fait, vous savez très bien dans quoi vous allez vous retrouver et vous aimez. Mais pas un énorme succès, même s'il y a eu le portage sur Switch. Moi, je l'ai eu sur Switch en plus, et je tiens à dire qu'il y a quelque chose de terrible avec ça. Les textes sont flous. On parle d'un jeu d'énigmes, où, je répète, les textes sont flous.
Quelle horreur.
Donc, ouais, je vais pas vous mentir, on est obligé de récupérer la Switch et vraiment de la tenir à la main parce que c'est impossible de la mettre sur la télé. J'ai essayé, moi personnellement j'ai eu beaucoup de mal, mon copain est myope, il comprenait rien du tout. Déjà que les énigmes c'est pas ce qu'il préfère dans le monde, autant vous dire que demander de faire des énigmes floues avec moi pour un jeu pour enfants, ça l'a pas... On n'était pas sur un grand succès. Et évidemment, parce que j'adore faire ça avec toutes mes sagas, on nous a annoncé en 2023, c'était il y a 3 ans, une suite Professeur Layton qui était prévue pour 2025. Évidemment, rappelons-le, est-ce qu'on est en quelle année ?
2026.
Eh oui, car le jeu a été reporté 2 fois. Une fois en début 2025, puis fin 2025, puis maintenant 2026 sans aucune date précisée. On est en 2026, peut-être qu'on l'aura demain. Peut-être après-demain.
C'est beau de rêver, sachant voilà. qu'il n'est pas annoncé depuis plusieurs Nintendo Direct.
Effectivement.
Et je le sais parce que je connais beaucoup de gens qui attendent oui. le professeur Layton et que quand il a été annoncé, je crois que c'était en 2025, il ouais. a été annoncé lors d'un Nintendo Direct, les gens étaient fous.
Il a été annoncé en 2023 même.
Ah oui, non, annoncé en 2023 ouais. sur un Nintendo Direct, les gens, ils étaient sur-hypés.
Ouais.
Et bah puis, ouais. Plus rien. Rien.
Effectivement, plus rien du tout. Ouais, il faut savoir que... Il y a peut-être des raisons possibles, je vais y revenir, mais déjà, je voudrais revenir sur les personnages qui ont vraiment marqué le jeu, parce que c'est hyper intéressant comment c'est des personnages qu'on mettrait plus dans des jeux vidéo à l'heure actuelle. Et pourtant, je pense qu'honnêtement, ça avait toute la saveur de jeu. Parce qu'en fait, honnêtement, on pourrait se ficher de l'histoire si on n'aimait pas les personnages. Mais on les retrouve à chaque fois et on se met à hurler quand on les voit parce qu'on est trop heureux. Le premier, Herschel Layton, qui est donc professeur en archéologie, grand fan d'énigmes. On va avoir Luc Triton qui est son assistant et qui parle aux animaux. Et ce qui est très sympa du coup avec ce jeu, c'est qu'on pourrait se dire oh, c'est un jeu d'énigmes, tout est très très neutre et scientifique et sérieux, mais en fait on a vraiment Luc qui parle aux animaux, on a des enquêtes qui sont toujours sur des choses extrêmement mystiques. Et honnêtement, il y a vraiment plein d'enquêtes, notamment évidemment l'héritage des Atlantes par exemple, des Aslantes pardon, et aussi effectivement l'appel du spectre, qui sont vraiment des histoires qui partent vraiment un peu dans le fantasy au final. Il y a aussi, il me semble, le destin perdu, si je me trompe pas, qui vous fait revenir dans le futur, aller dans le futur, parce que Luc du futur nous envoie une lettre. Et c'est vraiment un côté hyper sympa de ce côté-là où on se dit, bon, ok, d'accord, très bien. En fait, ça fait toute la saveur.
Ouais, j'en ai entendu parler de celui-là et il avait fait beaucoup parler justement ouais. pour son côté un peu futuriste et tout ça.
Et ça a été un des plus gros succès. On parle de 2,7 millions de ventes. Honnêtement, pour un jeu 3DS, c'est assez énorme, parce qu'il faut savoir que c'est pas les mêmes volumes que sur un jeu comme sur d'autres consoles, quoi.
Oui.
Tout est en physique.
Après, on va pas se mentir, hein, de base, le studio Level 5, il est bon, enfin, il est bon jusqu'à ce qu'il essore toutes ses licences jusqu'à la mort. Tu vas en parler ?
Ouais.
Alors, on y va. On y va.
Il y a tout ça, mais en partie, après, tu pourras rajouter ce que tu veux. On va aussi avoir Amy, qui est son assistante aussi, mais avant Luc, avant la rencontre avec Luc. Elle est photographe de l'autre côté, elle pratique aussi les arts martiaux et elle a ce côté hyper attachant où vraiment c'est elle est badass. Honnêtement, il y a plein d'enquêtes où il y a des fugitifs qui essaient de se barrer quand on sait que c'est eux qui ont volé quelque chose et elle leur met des tatanes. Honnêtement, je pense que je suis capable de revoir certaines cinématiques juste pour voir les tatanes d'Amy. Je vais être honnête. Et en dernier, mon petit préf, c'est Shelmy. C'est un inspecteur de Scotland Yard qui est hyper grincheux, qu'on voit dans tous les jeux. Et même dans Ace Attorney, pour le coup. Et ce type n'est jamais heureux. Et je l'adore. Et il faut savoir qu'on le revoit aussi dans Catriel et la conspiration, mais honnêtement, il a un beaucoup moins gros rôle, ce qui est trop triste. On espère qu'il reviendra et qu'il n'a pas pris sa retraite, parce que plus les années passent, plus il cumule des points pour la retraite, et il faut faire très attention avec ça. Mmh. Un jour ou l'autre, il râlera parce que son travail lui manque. Enfin, non.
C'est sûr.
Voilà, mes personnages. Et oui, effectivement, si on parle de Level 5, honnêtement, ils ont aussi quand même travaillé sur le film. C'est quand même assez badass pour un truc de jeu vidéo. En 2010, donc, on a eu la Diva Éternelle, finalement, qui n'est pas Mel, encore une fois, je vous le répète. Je sais pas pourquoi on se trompe tout le temps comme ça.
C'est mon deuxième prénom, c'est pour ça.
Et vous voulez savoir ce qui est le plus impressionnant ? On a, attention, Masakazu Kuba, qui est producteur. C'est un type qui a travaillé sur les films Pokémon. On est sur des gros noms.
Okay. Ouais,
sur
vraiment. Ce film,
qui est pourtant passé inaperçu, mais qui est sorti en 2010, qui est sorti au cinéma, normalement, si je ne me trompe pas, qui est sorti aussi en DVD. Bon, évidemment, d'abord au Japon, puis ensuite en France. Et dedans, on va parler notamment de Janice Catlane, qui est une ancienne élève, qui est une chanteuse d'opéra. En gros, elle est cantatrice. Elle était élève de professeur Letton, et puis ensuite, elle a dit « Non, moi, je m'en vais, je fais autre chose. » Et elle prétend voir sa meilleure amie qui est décédée, qui aurait repris vie dans le corps d'une petite fille. Et on est vraiment sur tout un film où ils sont dans une énigme, dans un opéra, pardon, d'ailleurs, et où le but, c'est de faire un jeu pour gagner la vie éternelle. Et je pense que Professeur Letton, c'est très intéressant pour les thèmes que ça touche, parce que c'est un jeu qui va parler de deuil, qui va parler de mort, qui va aussi parler parfois de colère, ce genre de choses. Et pour un jeu qui, normalement, est juste un jeu à énigmes, c'est quand même assez balèze. Parce que pour moi, c'est ça la force de Professeur Letton, c'est vraiment à chaque fois de nous raconter des histoires qui sont incroyables. Moi, je sais que quand j'ai commencé La Boîte de Pandore, j'étais terrifiée. Parce que La Boîte de Pandore, ça commence littéralement par la mort de quelqu'un. Enfin, techniquement, il meurt pas, attention, il tombe inconscient. Et il se fait juste agresser chez lui.
Non létal.
Et c'est, oui, le fameux non létal.
C'est vraiment non létal de Batman, mais c'est genre un type qui agresse pour gagner la boîte de Pandore. Et c'est trop intéressant pour moi parce que j'étais petite, j'étais terrifiée, mais j'avais trop envie de voir la suite alors que j'avais trop peur. Et dès qu'on allait dans des villes ou quoi, même dans le train, il y a un moment dans le train où on est censé attraper quelqu'un. Et genre, ça fait super. C'est vraiment beaucoup de choses pour juste un point and click, si on peut le rappeler. Et c'est vraiment trop marrant de ce côté-là parce que vraiment, on est hyper inquiet, on sait pas trop, c'est trop mystérieux. Et puis surtout, ça permet vraiment de s'intéresser à des choses auxquelles on penserait pas, genre la boîte de Pandore. Moi, je peux vous dire qu'à 10 piges, je savais pas ce que c'était que la boîte de Pandore et ce que ça voulait dire. La boîte de Pandore, c'est quand même une boîte qui est offerte à Pandore qui retient toutes les choses négatives de ce monde.
Et qu'elle a ouvert.
Et qu'elle a ouvert parce que la curiosité. Et c'est hyper drôle que ce soit, ce soit genre un thème qui est lié à un jeu d'énigmes.
En vrai, oui, hein. C'est giga bien trouvé.
C'est giga bien trouvé, c'est giga intéressant de pouvoir évoquer ces thèmes-là avec genre des lettres et tout ça. Il y a beaucoup de choses bien plus légères dans le jeu. Il y a un mini-jeu où il faut faire de l'exercice à un hamster parce qu'il est obèse, par exemple. Et c'est archi chou parce qu'il faut lui faire genre, il y a des petits, vous gagnez des ponts, des trucs comme ça, et vous lui donnez des pommes en récompense et il va vers la pomme. C'est vraiment, le jeu reste quand même assez jouable pour tout le monde, mais c'est juste qu'il y a vraiment ces petits côtés et ces petits moments, on fait, oh! En vrai, c'est pas mal. Enfin, genre, c'est archi profond, mais c'est trop bien amené à chaque fois. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un vrai lore. C'est pas juste, ah, vous faites un jeu d'énigmes. C'est vraiment, il y a un lore sur plusieurs jeux où il y a un jeu qui est avant la rencontre entre Luc et le professeur. Puis après, il y a que Luc, on voit plus Amy et on voit d'anciens élèves. Et en fait, quand on joue à ces jeux, on n'a pas envie d'arrêter le jeu. On a envie de continuer pendant des jours et des heures jusqu'à ce qu'on meure desséché parce qu'en fait, on a envie de tout comprendre, nous on a trop envie d'être les élèves de Professeur Letton en fait, ou de vivre des aventures. Et pour finir, c'est un peu effectivement aussi là où le déclin a commencé de Professeur Letton, et c'est sur ça que je vais finir. Level 5 travaille sur plein de jeux en même temps, plein de grosses sagas, et c'est toujours des sagas avec pas mal de budget, des superbes animations, des super musiques, mais il les sort les jeux comme pas possible, et le problème de Professeur Letton a toujours été ça. C'est qu'en fait, bah, c'est que des jeux à énigmes avec des énigmes qui se ressemblent assez, principalement surtout après 2016, parce qu'il faut savoir que du coup, Akira Tago concevait toutes les énigmes du jeu jusqu'à 2016, et un jour, bah, il est mort évidemment. Il a été remplacé en 2016 par Kunyaki Iwanami, qui est la personne qui maintenant fait les énigmes, notamment dans 4IL, et si vous vous rappelez bien, je vous l'ai dit, les énigmes sont devenues bien plus faciles. Ce qui fait que ça aurait dû être un très grand retour de dire « Ah, c'est Professeur Letton, mais on se passe un peu de Professeur Letton, on peut évoluer et parler d'autres sujets et peut-être parler de trucs un petit peu plus récents ou rajeunir un peu et moderniser. » Mais en fait, ça n'a pas marché parce que les énigmes qui sont le cœur du jeu étaient déjà trop simples et n'ont pas poussé les gens à revenir. Et je pense qu'ils n'ont pas assez pris le temps de travailler parce qu'ils travaillaient sur aussi beaucoup trop de jeux en même temps. Donc malgré le fait que ça reste un jeu qui est très beau avec des musiques hyper posée, hyper intéressante et qu'on pourrait écouter tout seul. Hein. Et ben en fait, et même un doublage aux petits oignons. Dès le premier jeu, on avait un doublage en anglais et en japonais. Et à partir du deuxième jeu, La Boîte de Pandore, on avait déjà les doublages européens. Donc on avait un travail de fou furieux et c'est aussi la raison pour laquelle les gens aiment ces jeux. Mais le problème, c'est que c'est trop répétitif et que c'est toujours la même chose. Et hormis si vous évoluez un peu et que vous regardez juste pour l'histoire, ça sert à rien. En fait, parfois, il vaut mieux regarder quelqu'un jouer au jeu pour avoir les trucs de l'histoire ou lire les wikis plutôt que de jouer au jeu, tout simplement parce que sinon, c'est trop répétitif. Et du coup, bah, si vous jouez au jeu les uns sur les autres, vous avez l'impression de faire tout le temps la même chose. Et je pense que c'est quelque chose qui bloque à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, le premier a commencé avec, attention, 5,21 millions de copies qui ont été vendues. L'héritage des Aslantes, celui qui est sorti avant Catriel, 0,77 millions. Donc, il y a un déclin hyper visuel parce que les gens se lassent, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait que maintenant, à l'heure actuelle, on n'a pas de retour. C'est qu'en fait, on a montré qu'elle était essorée, la saga, qu'il fallait trouver du nouveau. Et pour autant, ils n'ont pas réussi. Ça a marché pour plein de choses. Ça a marché parce que c'est un jeu tout public, que c'est sorti avec la DS et que ça permettait à des gens qui ne sont pas habitués au code du jeu vidéo, des boutons A, B, machin, les petits joysticks qui ne savaient pas utiliser tout ça, de pouvoir utiliser juste un point and click. Vous aviez votre stylet, vous pouviez jouer. C'était un jeu qui pouvait aussi avoir les familles ensemble. Ah, j'arrive pas à l'énigme, je vais voir maman, je vais voir papa, je vais demander à mon sœur, ma frère, mon cousin, et on va le faire ensemble. En plus du fait qu'il y avait une histoire qui était attachante et qui évoluait, et ça vraiment c'est pour moi le point fort de Professeur Layton, c'est qu'on a envie de savoir c'est quoi la boîte de Pandore et tout ça. Mais le problème aussi, c'est que ça a été vraiment noyé dans le temps, de faire tout le temps la même chose, avec tout le temps les mêmes personnages. Et...
Bah, le problème du coup, ouais, c'est que le fait que ce soit un point and click, ça réduit vachement les possibilités. Donc forcément, les gens, ils adorent, ils veulent une suite. Mais au bout d'un moment, faut trouver autre chose que le point and click. Sauf que il y aura une partie de la communauté qui va pas être contente s'il y a plus de point and click. Par exemple, un professeur Layton, mais version monde ouvert. Bon,
voilà.
Non, ça marchera pas.
Ça aidera pas l'histoire. Ce qui était bien, c'est que c'était un peu clôturé, qu'on pouvait pas avancer si on faisait pas les énigmes. En monde ouvert, on fait comment?
Pour
dire aux joueurs, faites les énigmes. Parce que les gens,
ils
vont
voir
leur en mode RPG ou quelque chose comme ça, quoi.
Je vais devoir mettre fin, je me dis, bah, je veux pas m'excuser.
Moi, j'ai dit ce que je voulais, j'ai dit que c'était la meilleure saga de l'hiver en jeu vidéo, mais que le problème, c'est que c'était du vu et revu, ça me convient bien. Et on leur souhaite de trouver une solution pour faire le meilleur des deux mondes.
J'ai une question. Vraiment, on espère. Claire, juste après, c'est fini. T'as vu le film du coup ou pas?
J'ai pas vu le film et je compte vraiment le regarder ce soir parce que du coup, quand j'ai découvert qu'il y avait un film, j'ai vraiment bondi sur ma chaise comme un enfant de 8 ans.
Ok.
J'avoue, j'aimerais bien le voir aussi. Mais de toute façon, on espère qu'il pourra revenir. On va tout de suite faire la première pause musicale. Je rappelle juste que vous êtes sur Radio G 101.5 FM et on va mettre Raw Fear de 21 Pilot. À tout à l'heure.
À toutes.
À tous.
Wait, who's the new kid? You know what kills me? Not getting stronger. And now I can't seem to sit still any longer. Raw fear moves me. Sounds of empty Uzis. Life is just forever nipping hills. Never slowing down. Raw fear moves me. Sounds of empty Uzis. Life is just forever gripping feels. Never slowing down. Stop yelling, you know it scares me. No,
de retour. Et on est de retour et du coup, c'était Raoufir de 21 Pilot et on va pas perdre de temps parce que vous avez pas de temps à perdre et moi non plus et là je vous fais perdre du temps.
Super.
Et on se retrouve tout de suite avec Mel qui va présenter qu'est-ce qu'on lit.
Oui, alors aujourd'hui je vais parler de deux mangas que j'ai lus. Et je vais commencer par la 13e piste, écrite et dessinée par Sam Bekei. Alors, je vais sûrement écorcher les prénoms, les noms et tout ça. Je suis désolée. Donc, ça a été créé par Sam Bekei.
On est tous passés par là aujourd'hui.
Mais t'inquiète.
Oui, ça a été créé et du coup dessiné par Sam Bekei. Sam Bekei qui a créé le manga Erased. Moi, je le dis en version française. Erased. Désolée pour vos oreilles, mais tout le monde comprend quand je dis Erased.
Non. On dirait juste Era espace Z. Genre
non,
c'est zombie,
tu vois. Erased. Bref, qui a été un animé aussi. Et du coup, c'est à la base, c'est un manga qui est génial, que j'avais adoré. J'avais lu les premiers tomes et puis après j'avais regardé l'animé. Et il a fait aussi notamment Echoes, un peu moins connu Echoes, parce que je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de tomes et en France ça n'a pas fait un grand succès.
Il est trop bien Echoes.
Moi j'avais pas tant aimé que ça Echoes. Et du coup, très bonne surprise de savoir qu'il a sorti un nouveau manga qui s'appelle La 13e Piste. La 13e Piste, ça parle de quoi ? En 2019, une habitation du quartier de Sakura Newton brûle entièrement et trois cadavres y sont retrouvés. Un an plus tôt, Toya, enseignant en école primaire, et sa femme Haru viennent tout juste de faire construire leur maison à Sakura Newton. Ils font de leur mieux pour offrir une enfance heureuse à leur fils Ao, souvent hospitalisé à cause d'une maladie grave, le cancer. Voilà, quand le garçon a hérité de son père de sa passion des RPG, il se prête volontiers au jeu de piste que ce dernier lui prépare. Mais un jour, Toya se retrouve, sans le vouloir, impliqué lui aussi dans une partie grandeur nature. Il découvre dans ses affaires des cartes postales à l'écriture enfantine qui prédisent de terribles tragédies. Et son rôle semble être de les stopper. Mais pourquoi lui et qui peut bien être l'auteur de ces prophéties ? Et donc déjà, rien qu'avec ce résumé, on peut voir qu'il y a une touche de Erased dedans.
Ouais, de ouf.
Dans le fait de...
La destinée,
de destinée, de prophétie, de savoir, de pouvoir changer et tout ça. Sauf que là, il ne remonte pas le temps, c'est des choses qui se passent de façon très actuelle. J'ai adoré. Premier tome, il était vraiment incroyable. Très bienveillant aussi, notamment autour de la famille. Et bon sang que ça fait du bien de voir dans un manga, surtout un manga qui parle de sujets assez glauques, parce que c'est pas très joyeux les prophéties, hein, qui a des familles fonctionnelles, saines et hyper douces, malgré que le fils, donc c'est dit hein, dès les premières pages, il est au service cancérologie, il s'en va parce que ça va mieux et c'est traité avec hyper de bienveillance. La famille, malgré des traumas passés de leur jeunesse, reste une famille soudée, hyper touchante. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et le côté énigme est très intriguant. Et le fait que ça soit reçu par des petites cartes postales, c'est toujours... Il y a ce petit côté de qu'est-ce que ça va être la prochaine. Et il y a une particularité sur les cartes postales, c'est que ça a tous des lieux spécifiques. Par exemple, il y a les pyramides, il y a un château en Pennsylvanie, il y a plein de lieux comme ça, quoi. Et en fait, j'ai vraiment adoré, quoi. Parce que du coup, Toya est un personnage adulte qui va essayer de... qui se prête finalement au jeu très rapidement. Vous savez, des fois, quand il y a ce genre de plot, le héros, il va mettre un certain temps avant de réaliser que oui, c'est vrai, que oui, c'est pas un canular, etc. Alors oui, au début, il se remet en question. Il dit, c'est un canular. En fait, la première énigme, c'est il y a un jeune enfant qui va recevoir 1 million de yens en le trouvant dans la rivière. Et il dit... Bah tiens, je connais cette info. Comment j'ai su ça? Ou alors c'est un déjà vu. Et puis après, il cherche un peu dans ses lettres et puis il tombe sur cette fameuse carte postale où il y avait écrit ça. Il dit, ah mais c'est de là que je tiens cette info. Et puis il réalise qu'en fait, cette carte postale, elle a été envoyée avant que l'information se passe. Et du coup, il se dit, mais attends, c'est bizarre. Et puis, petit à petit, il continue sa vie, il essaye de passer à autre chose. Et là, il y a encore une autre énigme. Et là, il se dit, il faut que j'aille vérifier si c'est vrai ou pas. Ça a été vrai. Bon, là, c'est pas un truc joyeux en mode... c'est pas un truc vraiment très joyeux en mode... ben là, c'est un enfant qui a trouvé 1 million de yens et il est heureux et il est riche. Non, non. Là, c'est... il y a un gamin qui a perdu... enfin, qui a perdu les pédales dans le sens que son vélo a plus de pédales. Voilà. Et qu'il va tomber dans l'eau et se noyer et mourir noyé. Donc, il faut aller le sauver. Et il dit bien, sauve-le. La carte dit bien, sauve-le. Et du coup... il met pas genre 36 000 ans à se dire ok je vais réfléchir et si ça se passe pas et si ça se passe et qu'il y a aux informations un accident ça voudra dire que c'est vrai etc. Non, là il se dit imagine que c'est vrai et ben je vais y aller et si c'est pas vrai ben c'était juste un canular et puis ben c'est pas grave et la vie continue et ça fait du bien de voir un héros ben qui a cette intelligence là sachant qu'en plus il a une intelligence émotionnelle incroyable, cet homme, dans le sens où, du coup, il va aider plusieurs personnes, mais ça va être surtout grâce à son intelligence émotionnelle qu'il va pouvoir aider les personnes qui sont en danger. Et c'est vraiment incroyable. Bon, au début, il commence à suspecter son fils en se disant, je sais pas, c'est un peu l'écriture de mon fils. Mais comment c'est possible, vu qu'il était à l'hôpital, il avait le cancer, il pouvait pas s'en occuper avant. Donc, est-ce que c'est ma femme? Et puis il se dit, non, ma femme, elle est enceinte, donc c'est pas elle, etc. Donc du coup, il va commencer. Il y a cette petite énigme de, il faut que je découvre qui c'est. Et en même temps, il va tout faire pour protéger sa famille, en se disant, ma famille, il faut pas qu'il découvre ces cartes-là. Bon, plot twist, l'enfant va découvrir les cartes. Voilà. J'en dis pas plus. Parce que vraiment, c'était trop bien. Très intéressant. Alors, j'ai appris que le manga, il n'est pas récent du tout. Parce qu'au Japon, il est fini. Il y a 7 tomes.
C'est pas énorme.
C'est pas énorme. C'est une petite saga. 7 tomes. Le premier en VO. Donc, au Japon, il est sorti en 2023. Sachant que l'apparition VF est sortie en 2026. Donc voilà, on est.
Sincèrement, ça m'étonne pas.
On est un peu en retard.
Echoes, quand il est sorti, il était déjà fini au Japon.
Ah ouais.
Et on rappelle juste que, genre, la plus longue série qu'il ait fait, c'est Erased.
Ouais.
C'est 25 tomes.
Ah ouais. Erased, c'est là pour te briser le cœur.
Ouais.
Echoes, genre, ça m'étonne que tu t'aies pas aimé parce que, on en parlera une autre fois.
Ouais, mais Echoes, j'avais pas aimé. Mais voilà, les dessins sont particuliers, mais. Franchement, quand on s'est habitué à regarder Eris, par exemple, un animé qui avait très bien retranscrit la patte graphique de Sanbekai, finalement, c'est grave ok. Et franchement, là, j'ai trouvé que même il y a un glow-up, même si c'est sa patte graphique, il y a une certaine douceur, malgré tout. Et du coup, il y a 7 tomes qui sont sortis. Le prochain tome, donc le tome 2 en VF, qui est chez Kiun, du coup... sort le 2 juillet 2026. Si vous voulez lire, alors je sais pas s'il est disponible en scan, mais si vous voulez avoir un petit un petit avant-goût, sachez que sur le site de Notijon, si vous tapez en fait la 13e piste sur Google, vous verrez le site de Notijon, vous cliquez dessus et il y a écrit juste en dessous de l'image lire un extrait et vous pourrez lire le premier chapitre gratuitement en très bonne qualité. Donc ça peut vous permettre de vous donner une idée déjà du manga. Donc voilà, et j'ai hâte de savoir la suite. C'est une série que je vais suivre de près.
Donc la 13e piste, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça, la 13e piste. Et voilà. Et c'était vraiment bien. Donc moi, je vous le conseille. Et puis, on va parler ensuite d'un deuxième manga qui s'appelle Love Bullet. Ça parle de quoi, Love Bullet? Les personnes mortes sans avoir connu l'amour par la déesse de l'amour sont réincarnées en Cupidon, incapables de vieillir ou de tomber amoureux. Koharu est la toute nouvelle recrue qui, grâce à ses capacités d'observation et son instinct, va aider les humains à tomber amoureux. Ben, j'ai beaucoup aimé. Alors, le résumé comme ça, il vous dit rien. Parce qu'en fait, si ça s'appelle Love Bullet, c'est pas pour rien. Les Cupidons, qu'on connaît bien avec leur petit, avec la petite flèche d'Eros, l'arc d'Eros, etc., on connaît bien. Là, non! Ce sont des jeunes filles, des lycéennes, souvent parce que forcément quand t'es jeune, tu connais pas forcément les débuts de l'amour, donc c'est souvent des cupidons très jeunes qui se battent, parce que oui, il y a de la bagarre, et qui en plus de ça font tomber les gens amoureux, pas avec une flèche, non, avec des balles. D'où le nom Love Bullet.
C'est un coup de foudre, hein.
Sacré coup de foudre, sachant que c'est des pistolets, c'est des guns, c'est des snipers, c'est des mitraillettes, il y a des bombes aussi. Donc voilà.
C'est une bombe, tu sais.
Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que alors les dessins sont un peu fouillis par certains moments, mais ils sont quand même assez incroyables. Et autre point positif, j'ai pleuré. Sur le tome 1 du manga, parce que l'histoire de Koharu et l'histoire de la première personne avec qui elle va devoir faire ses preuves et du coup de devenir Cupidon, c'est sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui, elle, est vivante, mais elle est morte. Du coup, c'est une histoire très touchante. Moi, franchement, j'ai pleuré. Autre point, il y a des romances hétéros, okay, et des romances homo, notamment la meilleure amie qui est bisexuelle et qui va finir avec une femme. Voilà.
Let's go.
Et c'est hyper touchant, hyper intéressant. L'histoire, elle est bien, ça se développe bien. Et franchement, c'était très sympa. J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas trop de suite ou d'histoire réelle. J'ai pas envie que ce soit un tome, une histoire, en fait. Parce que moi, j'aime bien quand il y a un fil rouge. Même si je pense que le fil rouge, là, ça va être que Koharu, donc l'héroïne principale, va devoir faire ses preuves. Et en fait, au bout d'un certain temps, les Cupidons qui ont le plus réussi de mission de mettre en couple des gens reçoit la bénédiction de la déesse et a le droit de revivre.
Ok.
Même si plus personne ne saura qui tu es, etc. quand tu reviendras dans le monde, dans ta réincarnation, mais tu auras le droit à cette réincarnation-là. Et on sait que Koharu, elle a envie de repartir sur Terre et de vivre sa vie parce que justement elle est morte à 16 ans quoi.
Ouais.
Donc voilà. Et franchement c'était un bon livre, un bon manga, ça s'est lu hyper vite, c'était hyper doux dans son histoire avec sa meilleure amie. Les Cupidons entre eux se pètent la gueule littéralement. What? Oui, vraiment, ils se pètent la gueule. Il y en a une, c'est une yandere, limite, qui agresse Koharu et qui lui dit, je vais te péter la gueule, concrètement. Et du coup, là, il y a plein de mystères comme ça sur le fait de travailler en cohésion, en équipe. Ils sont pas tous gentils, les Cupidons. Et notamment, celle qui s'en fout et qui veut péter la gueule à Koharu, littéralement, dit moi, j'en ai rien à foutre de qui je mets en couple. Qui ? Même si je fais pas les affinités, etc. Et donc, du coup, elle va dire lui, il est brun, elle est rousse, ça fera un bon match. Elle va les. elle va les leur tirer dessus pour qu'ils tombent amoureux, quoi. Qui est tout l'inverse de Koharu, parce que du coup, Koharu, même quand elle était vivante, elle était considérée comme la Cupidon de sa classe, parce qu'elle a une capacité d'observation. Et elle aussi, d'une certaine manière, elle a une très forte intelligence émotionnelle. Et c'était vraiment bien de pouvoir lire ça. Et du coup, bah, voilà, c'était les deux mangas que j'ai lus, qui étaient vraiment trop bien. Et bah, les deux, finalement, ont un lien d'émotion très fort. Et franchement, bah, je vous conseille. Le tome 2 de Love Bullet sort... bah, j'ai pas la date.
Il sort en juin.
Ah oui, c'est ça. Il sort en juillet.
Il sort en juillet, ok.
C'est ça. Il sort en juillet et puis voilà.
Bah écoute, perso, ça m'a donné envie de lire les deux. Bah, de toute façon, j'ai les deux à la maison.
Bah oui, je t'avais dit que. Mais toi, tu vas beaucoup aimer, je pense.
Lire les deux. On reparlera d'Echo une autre fois.
Oui.
Mais voilà. Mais du coup, non, les deux me tendent bien. Et toi, Claire?
Franchement, Love Bullet a l'air très très cool. Mais ça, c'est mon petit côté La La Land. Je vais pas vous mentir.
Mais voilà, du coup, on va partir sur bah, la deuxième pause musicale.
Oui.
Et on va partir sur Where the Fuck is Jason, de Deluxe et de Monsieur J. À tout à l'heure.
À toutes.
À toutes.
Send the chicken here. So in love with Clive and the Nick, he's a surgeon. Is it too late for some random appreciation?
It ain't never too late for appreciation. Sure. You can send the love and hate to Jason. Sure. I keep it moving, never chasing. You know what I'm saying.
I live to break it to you till I forget what I'm doing. You want security through the microbunda gone to my bliss. Damn, it's to my patch of cabbage. All green like my garbage. I saw my life for a song. I'm this tiny little bomb, weak and strong. I need that whiny baby gone, very hard. If I tell you to scream along, you scream along. I stole my life for a song. Bongo bong, I'm this tiny little bomb, weak and strong. I need that whiny baby gone, very hard. If I tell you to scream along, you scream along. Mother lover, who the heck summoned my girl Godzilla?
Was some type of lizard.
I said, who the fuck summoned my girl Godzilla? Do you know her daddy was a whale and her mama gorilla? I tore my life from a song. Bongo bong, I'm a tiny little bone, weak and strong. I need a whiny baby gone. Hurry on, if I tell you to scream out.
Where the Fuck is Jason de Deluxe. J'espère que ça vous a plu. Nous, personnellement, on adore. Et du coup, on va tout de suite se retrouver avec moi.
Mais non.
Avec moi et moi seul. Non, plus sérieusement. Et on va parler pour une fois d'un JDR qui est mignon. Il est mignon, c'est...
Moi, j'y crois pas, hein. Faites pas avoir comme ça.
Ah, pour une fois, je ne mens pas, en plus.
Mais non, il est très mignon, JR.
Ouais, alors, doucement. Mais, plus sérieusement, bon, je vais présenter le jeu de rôle et après, je dirai ce que j'en pense, ce sera peut-être mieux. On va parler aujourd'hui de Donjons et Chatons.
Oh, j'adore ce JDR.
Ça a été fait du coup par Clément Bouhellier, qui est un auteur de romans de fantasy et de jeux de rôle du coup, et ça a été illustré par Clément Lefebvre, qui est de base en dessinateur de bande dessinée, qui a un style qui est très onirique et poétique.
Vous sachez que si vous appuyez pas Clément, vous ne travaillez pas dans le JDR.
Voilà, exactement. Et du coup, ça a été édité par le studio Dead Crow, qui est du coup une maison d'édition française spécialisée dans le jeu de rôle, qui est basée dans l'est de la France et qui est moins gros que tous les gros. Là, il y a encore une émission qui sera sur l'édition du jeu de rôle, je vous le promets, parce que j'ai des choses à dire. Mais c'est pas aujourd'hui. Et de base, ce jeu de rôle a été fait grâce à un participant. Par une campagne de financement participatif qui a été faite par Game on Tabletop. Mais qu'est-ce que c'est que Donjons et Chatons, je veux dire. Et c'est une très bonne question, merci Téméo. Mais laisse-moi continuer. Donc, qu'est-ce que c'est Donjons et Chatons, c'est un univers qui est post-humain, dans le sens où les humains ont disparu depuis très longtemps et que la nature a repris ses droits. Et vous allez me dire que post-apo, c'est pas mignon, mais là, c'est du post-apo mignon. Donc c'est pas pareil.
Ça, vous n'êtes pas attentif. Hein,
vous n'êtes pas attentif. Et concentrez-vous, s'il vous plaît, merde. Mais du coup, le cadre se passe dans le royaume d'Olcura, une terre qui est peuplée par de petits animaux anthropomorphes trop mignons, habillés en marchant sur deux pattes. Ils sont habillés et marchent sur deux pattes et qui ont hérité des vestiges de notre civilisation. Vous allez incarner des petits chatons ou des petits choux ou plein d'autres animaux mignons qui ont été bannis de leur cité et qui parcourent le monde afin d'accomplir des quêtes. L'identité visuelle est très, très, très inspirée du travail de Clément Lefebvre, c'est-à-dire que c'est un style qui va être très onirique, très proche des films des studios Ghibli, des contes de fées de notre enfance. Enfin, le jeu met en valeur l'amitié, la bienveillance, la curiosité, l'entraide, et plutôt que la conquête et la richesse, parce qu'on sait très bien qu'avec des amis, on va loin, et quand on veut devenir riche, il vaut mieux être tout seul et en avoir rien à foutre des autres. Oupsie, fallait peut-être pas le dire. Mais du coup, pour tout ce qui est du coup philosophie, évidemment, étant donné qu'on met la bienveillance et l'amitié en premier, tout ce qui va être violence est très rare et souvent décourageux. On gagne le conflit par la ruse, la discussion ou même en faisant des câlins ou des blagues avec les ennemis. Le système est très très accessible. Il y a 3 stats: costaud, agile et malin. Et chacune de ces 3 stats est se fait avec un jet qui avec 3 jets de dés à 6 faces, et on réussit en fait si on fait un résultat, si le résultat est inférieur ou égal à la caractéristique. Mais voilà, pour ce qui est du format, c'est un petit livre qui est richement illustré, qui contient tout ce qui est nécessaire pour commencer. Pourquoi est-ce qu'on crée ce genre de jeu de rôle? Alors, déjà parce que c'est cool,
parce faire que des c'est jeux drôle. De rôle mignons.
Et surtout, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui? Parce que, selon moi, c'est le meilleur jeu de rôle pour soit rentrer dans le monde du jeu de rôle, soit pour commencer avec des enfants. J'ai beaucoup d'enfants,
personnellement, donc...
J'ai beaucoup d'enfants, ils ne savent pas que je suis le père, mais ça c'est un détail.
On fait toutes des sessions de JDR ensemble, quoi,
c'est trop bien. Non, mais j'ai déjà eu pas mal de personnes qui m'ont posé la question, écoute... J'ai des enfants, j'aimerais les mettre au jeu de rôle et je ne sais pas par où commencer. Donjons et Dragons, pas ouf. Cthulhu, j'ai envie qu'ils dorment. Et du coup, bah, par quoi je commence? Alors, on pourrait leur dire Holy Crap, mais Holy Crap aussi, c'est peut-être pas ouf.
Non, JR, non.
Mais du coup, Donjons et Chatons est la solution. Pourquoi est-ce que c'est la solution? Parce que, encore une fois, c'est extrêmement simple et sans pour autant avoir toutes les questions de combat, de... Du côté un peu plus sombre en fait du jeu de rôle, on va vraiment avoir un univers qui va être adapté aux plus jeunes et qui va leur permettre de vivre de grandes aventures en mettant en avant, je pense, les principales qualités qui font qu'une personne va être considérée comme étant quelqu'un de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre soin des autres, qui va penser que la violence n'est pas spécialement la solution et qui, du coup, va pouvoir aller loin. Donc pour un enfant, c'est bien parce que il va pas être traumatisé et il va pouvoir aller loin avec ses amis qui vont avoir entre 5 et 8 ans parce que oui, en effet, c'est un jeu de rôle qui est recommandé pour les personnes qui, enfin, à partir de 7-8 ans.
Ça permet aussi à leur apprendre le développement des émotions.
Exactement. Oui. Que ce n'est pas grave d'être triste, que ce n'est pas grave d'être en colère, que c'est des choses qui arrivent parce que oui, effectivement, ça peut être en univers mignon, on peut toucher à des sujets qui sont sensibles. Et on en vient du coup à la deuxième chose qui est vraiment intéressante, je pense, pour ce jeu de rôle, c'est pour les adultes. C'est que beaucoup de personnes vont dire « Ouais, mais c'est mignon, mais du coup, on ne peut pas avoir de trucs sérieux. » C'est complètement faux. Il y a pas mal de one-shot ou de campagnes qui ont été faites par la communauté qui ont parlé de sujets qui sont très sérieux, comme le deuil, comme la colère, comme l'envie de vengeance, comme tout ça. Et on parle du fait que nos personnages ont été bannis de leur cité. Ils n'ont pas été bannis pour des raisons qui sont mauvaises. Ça peut être pour des raisons mauvaises. Mais ça peut aussi être des raisons du style « va en aventure pour essayer de te retrouver toi et toi seul et savoir ce que toi tu as envie de faire dans ta vie et dans ton... dans ça. Et pourquoi est-ce que tu veux devenir comme ça et comment est-ce que tu peux retrouver, entre guillemets, la paix ?» Alors évidemment, on peut jouer le petit le colonel fromage ou l'envoyé souris, mais l'envoyé souris, pourquoi est-ce qu'il est parti ? Qu'est-ce qu'il fait qu'il est parti ? Pourquoi est-ce que l'envoyé souris, le colonel fromage et l'archidruide de la maison du canard est en liberté ? Est-ce que du coup ils ont eu comme histoire, et c'est ça qui peut être intéressant pour les adultes, pour les ados, mais aussi pour tout le public en règle générale. Il nous reste un peu de temps, c'est-à-dire exactement 4 minutes environ. Est-ce que ça vous donne envie d'y jouer?
Franchement, oui.
Eh ben, honnêtement, oui, mais j'ai déjà joué parce qu'en fait, faut savoir que petite backstory, j'ai déjà fait de la garde d'enfants. Et en fait, ça m'arrivait plein de fois de le faire avec des enfants qui géraient très mal leur frustration. Parce que déjà, de un, c'est un super jeu pour apprendre la coopération et comprendre qu'un jeu de société, c'est pas nécessairement un jeu de compétition. Tu dois gagner. Là, tu gagnes en équipe. Ça permet vachement de développer ça. Et en plus, je trouve ça vraiment sympa le côté où un enfant, quand tu l'apprends pas à nommer ses émotions ou à apprendre à gérer ses colères et sa frustration, en fait, il sait pas le faire de lui-même, et c'est normal, on l'a tous, c'est un comportement qu'on apprend. Et genre, ce genre de jeu, c'est sympa parce que tu vas leur apprendre sans leur faire la leçon, en fait. Ça va vraiment être juste, là, ton personnage, il est pas bien, ou il est face à cette situation difficile, comment est-ce que toi tu fais? Et en fait, forcément, ça va avoir des répercussions, et je trouve ça hyper chouette de proposer ce genre de truc. Et en plus, ça permet vraiment à des parents un peu stylés, finalement, parce que c'est des parents qui font du JDR quand même.
De ouf.
De pouvoir commencer avec leurs enfants avant de les envoyer, genre, tiens, on va faire une campagne de donjons et dragons, les enfants.
Et ben là, ton personnage, il est mort.
C'est ça.
Et il reste combien de temps, là?
Il nous reste encore 3 minutes, vas-y.
Alors, pour les 3 minutes qui suivent, bon, déjà, Donjons et Chatons, oui, j'ai envie d'y jouer. Ça développe aussi la... l'imagination des enfants, donc c'est incroyable. Mais là, on va couper du coup bientôt, mais on a une petite annonce à vous faire. Parce que le 11 avril, samedi 11 avril et dimanche 12 avril, il y a la Angers Geek Fest.
Et on y sera
oui. En tant que
journaliste, en fait.
Ouais. En tant que gros touriste.
Parce qu'en fait, surtout en gros touriste, je pense. Mais on y sera. Mais sachez qu'en plus de ça, à 14h, on est en direct. Voilà. Sur Radio G.
N'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous voulez même nous dire bonjour, ce sera avec plaisir.
Mais grave, venez bien nous sûr. Dire bonjour. Vous verrez, on aura une accréditation presse. Moi, j'aurai peut-être des oreilles d'elfe. Voilà.
On passe rarement inaperçu. Si vous voyez, genre, en métisse de 2 mètres avec une rousse et quelqu'un avec des cheveux verts, c'est nous.
c'est ça. La rousse, les cheveux verts et le métisse de 2 mètres.